Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de ce jour nous rapporte deux miracles de Jésus. Ces miracles ont un sens littéral et un sens spirituel. Au sens littéral ou sens historique, notre Seigneur a réellement ressuscité la fille de Jaïr, un chef de synagogue, et il a vraiment guéri l'hémorroïs, une femme qui souffrait d'un flux de sang. Au sens spirituel, ce récit peut se lire de deux façons différentes. Dans un sens allégorique, il signifie l'histoire de l'Église et de la synagogue. Et dans un sens moral, il contient des encouragements pour les pécheurs qui veulent sortir de leurs péchés. Commençons par le sens littéral. Il contient trois enseignements. D'abord, nous voyons la bonté de Jésus. Dès que Jaïr eut fait sa demande, notre Seigneur se lève et le suit. Lui, le Fils de Dieu, il n'écoute que son bon cœur et il se met à la suite d'un homme pour lui rendre service. Car il est venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir. La bonté de Jésus se manifeste aussi vis-à-vis de l'hémorroïs. Ayant senti qu'une force sortait de lui, Jésus se tourne vers la femme et la regarde avec bonté. Jésus se retourna, la vit et dit : Ayez confiance, ma fille, votre foi vous a guérie. Videns eam, Jésus porte son regard sur elle et il lui dit : Confide filia, confiance, ma fille. Jésus encourage cette pauvre femme, il l'appelle sa fille. Comme ce regard et cette parole ont dû pénétrer le cœur de cette femme et lui donner du courage pour toute sa vie. Sachons, nous aussi, croiser le regard de Jésus. Remarquons que Jésus ne se contente pas de ressusciter la fille de Jaïr, il lui tend la main. Dans le récit parallèle de saint Luc, il est précisé qu'il ordonna de lui donner à manger. Quelle délicatesse de Jésus, et comme il fait bien toutes choses. Un deuxième enseignement de ce récit est la nécessité de la foi pour être guéri. Jaïr a la foi. Adorabat eum. Il se prosternait devant Jésus en signe de respect et d'adoration. C'est un imparfait qui montre la durée. Puis Jaïr lui dit : Ma fille vient de mourir, mais venez, imposez votre main sur elle et elle vivra. Il croit que Jésus est capable de ressusciter sa fille morte simplement en lui imposant la main. Saint Marc et saint Luc rapportent un incident passé sous silence par saint Matthieu. Ils disent que la fille n'était pas morte encore quand Jaïr s'adressa à Jésus. Mais que pendant qu'il se rendait vers la maison, les serviteurs de Jaïr vinrent à leur rencontre pour annoncer la mort de la fillette. Et ils dirent à Jaïr : Votre fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ? Mais Jésus, ayant entendu cette parole, encourage Jaïr à croire. Ne crains point, crois seulement. Noli timere, tantum modo crede. La foi de l'hémorroïs est aussi bien mise en évidence par le récit évangélique. Et Jésus précise que c'est sa foi qui l'a sauvé. Le troisième enseignement de ce récit au sens littéral découle des deux précédents. Jésus est vraiment le bon Dieu. Il est bon, nous l'avons vu, et il est Dieu, car il suffit de croire en lui pour être guéri ou pour obtenir la résurrection d'un mort. Et Jésus opère cela par sa propre vertu, son propre pouvoir. Il ne s'adresse pas à Dieu, mais il se contente de prendre la main de la fillette et de dire « Lève-toi ». On voit que son pouvoir divin se communique à son corps d'homme, puisqu'il ressuscite la fillette en lui prenant la main et en lui adressant la parole. Ce pouvoir se communique même à ses vêtements, puisque c'est en touchant la frange de son manteau que l'hémorroïde fut guérie. Remarquons encore que la mort, pour Jésus, est un sommeil. La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort, dit-il. Pourtant, elle était bien morte, comme le montre la réaction des personnes présentes qui se moquent de lui. Mais la mort pour Jésus, pour Dieu, n'est pas plus qu'un sommeil. Et à l'heure qu'il a choisie, il ressuscitera tous les morts. Cette résurrection de la fille de Jaïr en est en quelque sorte un préambule. Voyons maintenant le sens spirituel de ce récit, et d'abord le sens allégorique. Les pères de l'Église, et notamment saint Hilaire, que nous avons lu ce matin dans les matines, disent que Jaïr et sa fille représentent le peuple juif. Jaïr est un nom qui signifie « celui qui est illuminé » ou « celui qui illumine ». Jaïr représente Moïse, qui fut illuminé par le Saint-Esprit et qui a reçu la révélation sur le Sinaï afin d'illuminer les autres. Par les pieds de Jésus est figurée son humanité, devant laquelle se prosterne Moïse, car il a su à l'avance que notre Seigneur, qu'il annonçait, serait plus grand que lui. La fille de Jaïr représente la synagogue, fille unique de Moïse. Elle est morte à 12 ans, car après avoir été éduquée par Moïse et instruite par les prophètes, après avoir atteint l'âge où elle aurait dû enfanter le Messie, elle tomba malade en refusant de croire et elle mourut de son infidélité. Quant à la femme affligée d'une perte de sang et guérie par le Seigneur, elle représente l'Église formée avec les peuples païens. La fille de Jaïr est âgée de 12 ans et cette femme souffre d'une perte de sang depuis aussi 12 ans. C'est-à-dire que la femme a commencé de souffrir quand la fille de Jaïr est née. En effet, c'est à peu près à la même époque que la synagogue a été constituée et que les nations païennes ont commencé d'être infectées par l'idolâtrie. Jésus, qui passe sur le chemin, signifie l'incarnation, lorsque Dieu, descendant du ciel, se mit à marcher sur la terre. La femme s'approche de Jésus par derrière, parce que lorsque le mystère de l'incarnation fut passé, les païens commencèrent à le suivre par la foi. Elle touche son manteau, qui signifie l'Église, car pour être guéri, il faut être incorporé à l'Église. Après la conversion des païens, Jésus revient vers la fille de Jaïr. Il revient vers la synagogue pour lui rendre la vie par sa puissance. Dans la maison de Jaïr, il y a des joueurs de flûte et une foule bruyante qui se moque de Jésus. Cette foule représente les Juifs incrédules. Ils sont dans la tristesse et chantent des chants lugubres. Ils se moquent de Jésus, qu'ils prennent pour un imposteur. Mais Jésus chasse ces incrédules. Il prend la main de la fillette, car, comme le disent les pères, si les mains des Juifs pleines de sang ne sont pas d'abord lavées, la synagogue morte ne ressuscitera pas. Puis, au contact de la bonté divine, elle se lève et elle marche. Car non seulement la synagogue sortira de la souillure du péché, mais elle s'appliquera aussitôt aux bonnes œuvres. Ainsi, au sens allégorique, ce récit confirme l'enseignement de saint Paul sur la conversion des Juifs vers la fin des temps, après que la foi aura été prêchée à tous les peuples païens. Les Juifs se convertiront et feront de grandes choses. L'autre sens spirituel de ce récit est le sens moral. La fille de Jaïr représente le pécheur qui n'a commis que des péchés de pensée, des péchés intérieurs. En effet, les évangiles nous racontent que Jésus a ressuscité 3 morts. La fille de Jaïr, ressuscitée dans la maison d'une manière discrète, en présence seulement de ses parents et de 3 apôtres. La fille de la veuve de Naïm, que Jésus a ressuscité à la porte de la ville et devant une foule. Enfin, son ami Lazare, qu'il a fait sortir du tombeau, après 4 jours d'ensevelissement et qui sentait déjà mauvais. Lazare représente le pécheur endurci qui gît dans son péché. Le fils de la veuve de Naïm représente le pécheur qui a commis un péché extérieur mais qui n'est pas encore endurci dans le vice. Et la fille de Jaïr représente celui qui a commis un péché dans son cœur, mais qui n'a pas encore commis un acte extérieur. Par où l'on voit que le péché de pensée peut être un péché mortel, puisque la fillette est bien morte. Cependant, la résurrection est relativement facile, à condition, toutefois, de chasser les mauvaises pensées qui envahissent l'âme, comme cette foule bruyante, et aussi de croire et d'accepter la main tendue de Jésus, c'est-à-dire la main du prêtre qui donne l'absolution. Même pour les péchés de pensée, il faut se confesser, du moins si ce sont des péchés mortels, car alors il ne suffit pas de les regretter dans son cœur. Quant à l'hémorroïse, elle représente le pécheur honteux qui n'ose pas se montrer. Elle se met à suivre Jésus, car il faut se mettre à son école. Elle touche son vêtement, qui figure l'Église, car là encore le pécheur doit aller trouver le prêtre pour se faire absoudre. Enfin, elle se laisse encourager par Jésus, qui la regarde et lui dit: « Ayez confiance, ma fille, votre foi vous a sauvée. » Voici donc les leçons que nous pouvons tirer de ce récit évangélique. Nous voyons que Jésus est Dieu, qu'il est le bon Dieu, qu'il a le pouvoir sur la vie et sur la mort, qu'il peut nous guérir et nous sauver, mais à condition que nous croyions en lui, que nous ayons la foi. Ensuite, nous comprenons que Jésus est le maître de l'histoire. Il a permis la chute des Juifs pour constituer l'Église, essentiellement avec des païens. Mais un jour, il ressuscitera la synagogue. Il convertira le peuple juif au moment où tout semblera perdu. Et par eux, il fera de grandes choses. Enfin, nous sommes tous des pécheurs. Alors nous devons aller à Jésus et l'adorer, puis lui confesser nos fautes, même les plus cachées, en lui disant avec foi: « Mon âme vient de mourir, mais venez, imposez sur elle votre main, la main de votre prêtre, et elle vivra. » Laissons-nous toucher par le regard de Jésus, plein de bonté. Prenons confiance en écoutant ses paroles d'encouragement. Enfin, acceptons la main qu'il nous tend, et nous serons guéris, voire même ressuscités. L'Évangile ne parle pas de la Sainte Vierge dans ce récit, et pourtant on peut penser qu'elle était là, que c'est elle qui a encouragé Jaïr à aller voir Jésus, et peut-être aussi l'hémorroïse. Alors, si ces démarches nous coûtent, adressons-nous au refuge des pécheurs, la très sainte Vierge Marie. Elle nous conduira à Jésus pour être guérie. Disons-lui avec confiance bien souvent, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.